إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، en cette soirée du samedi 20 Dhul Qa'dah 1433 de l'Hégire, correspondant au 6 octobre 2012, بإذن الله تعالى. On termine, on continue le hadith de Jibril alayhi salam. Et aujourd'hui, on est inshallah ta'ala au quatrième pilier. Le quatrième pilier, il a dit هذا هو الركن الرابع ورسله. Le quatrième pilier, c'est le fait de croire au messager. Le fait de croire au messager. Le Cheikh dit rahimahullah الرسل هم البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرائعه. Il a dit, les messagers, ce sont les gens, ou là, les êtres humains, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à sa créature. Que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est-à-dire aux êtres, ayyakum Allahu jami'an, en cette soirée du samedi 20 Dhul Qa'dah, 1433 de l'Hégire, correspondant au 6 octobre 2012. On termine, on continue le hadith de Jibril alayhi salam. Et aujourd'hui, on est inshallah ta'ala au quatrième pilier. Le quatrième pilier, il a dit هذا هو الركن الرابع ورسله. Le quatrième pilier, c'est le fait de croire au messager. Le fait de croire au messager. Le Cheikh dit rahimahullah الرسل هم البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرائعه. Il a dit, les messagers, ce sont les gens, ou là, les êtres humains, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à sa créature. Que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est-à-dire aux êtres humains. À sa créature ici veut dire être humain, veut dire aussi les djinns, car le prophète alayhi salam a été envoyé aussi aux djinns. Il a dit وَجَعَلَهُمْ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ فِي تَبْلِيغِ شَرَائِعِهِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait des messagers un intermédiaire entre lui subhanahu wa ta'ala et entre ses créatures. Certains disent que ce sont des ambassadeurs, mais le mieux serait de dire des intermédiaires. وَهُمْ بَشَرٌ خُلِقُمْ مِنْ أَبْوَأُمْ. Les messagers sont des êtres humains qui ont été créés de père et de mère. إِلَّا عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ مِنْ أُمْ بِلَا أَبْ. Sauf Isa, عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, Jésus, عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, le seul qui n'a pas été créé de père et de mère, mais qui a été créé de mère sans père. أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد. نعم. Ici je profite pour dire, donc tous les êtres humains ont été créés de quoi? Créés de père et de mère, sauf Jésus alayhi salam, qui a été créé seulement de mère et pas de père. C'est pour ça que par rapport aux êtres humains, on va dire par rapport aux êtres humains, il y a quatre sortes. La première sorte, ceux qui ont été créés de père et de mère, c'est tous les communs des gens, créés de père et de mère. Ensuite, ceux qui ont été créés de mère seulement, comme Isa alayhi salam, Jésus, Ensuite, ceux qui ont été créés de père seulement, pas de mère, mais de père seulement, comme Ève, Hawa alayhi salam, n'a pas de mère. Non, elle est venue de Adam. Et ensuite, ceux qui n'ont été créés ni de père ni de mère, Adam alayhi salam. Ou bien on peut renverser et dire la première sorte, ceux qui n'ont ni père ni mère, Adam alayhi salam. La deuxième sorte, ceux qui ont père et mère, nous tous. La troisième sorte, ceux qui ont père seulement, Hawa. Quatrième sorte, ceux qui ont mère seulement, Isa alayhi salam. Al-Mouhim. Il a dit ici, أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وإقامة للحج عليهم. Il a dit, الله سبحانه وتعالى les a envoyés رحمة pour qu'ils soient une miséricorde, نعم, pour يعني العباد, pour les êtres humains ou bien pour les serviteurs. Disons pour les serviteurs. Car quand on dit serviteurs, ça rentre aussi les djinns. Les djinns aussi rentrent dans serviteurs. Donc, il n'a pas expliqué en quel sens ils ont été envoyés, yani rahmatan lil alamin. Il n'a pas expliqué en quel sens ils ont été envoyés miséricorde. Mais ils ont été, disons, envoyés miséricorde dans le sens que, subhanallah, s'il n'y avait pas de messager, on serait tous, yani, allés en enfer. Naam, s'il n'y avait pas de messager, qu'est-ce qui serait passé? Chacun aurait adoré ses passions. L'un aurait adoré des statues, l'autre un arbre, l'autre le soleil. Notre la lune, notre. Et comme ça. Naam. Donc, Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés. Rahma, miséricorde pour nous. La preuve, si tu les suis, tu vas rentrer au paradis et tu vas sauver ta peau de l'enfer. Et tu vas sauver ta peau de l'enfer. Alhamdoulilah. À part que en les suivant, bien sûr, tu vas vivre ici une vie, yani, de paradis. Donc, de paradis aussi, dans le sens, yani, tu vas vivre avec un cœur apaisé et serein. Car c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'avoir le matériel, mais d'avoir un cœur apaisé et serein. Car des gens ont le matériel, plus de l'argent, etc., et n'ont pas le cœur apaisé, yani, qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident et ils se droguent, etc., etc. Et d'autres, masha'Allah, ont le cœur apaisé et serein, c'est-à-dire l'iman, et n'ont pas le matériel, et vivent comme des princes et des rois, alhamdoulilah. Il a dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés comme miséricorde et les a envoyés aussi pour établir la preuve sur yani, les gens. On va voir, inshallah ta'ala, comment ils établissent la preuve. Ensuite, Cheikh Rahimallah a cité un verset. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'dih. Il a dit ici, nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé, et au prophète après lui. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et au prophète après lui. Naam. Tayyib. Ensuite, il a dit "Wa hum 'adadun kathir." Wa hum 'adadun kathir. C'est-à-dire que leur nombre est grand. Leur nombre est important grand. Naam. Mais le Cheikh rahimahullah n'a pas cité leur nombre. Le Cheikh rahimahullah n'a pas cité leur nombre. Alors qu'il y a un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prophètes, que leur nombre c'était 124 000. 124 000 prophètes. Et que les messagers, leur nombre c'est 315. Donc, 124 000 prophètes et 315 messagers. Si j'oublie, inshallah ta'ala, faites-moi rappeler pour que je vous dise la différence entre le prophète et le messager. Il a dit, awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier messager, maintenant je parle des messagers. Le premier messager c'est qui? C'est Nuh. Noé alayhi salam. Nuh. Naam. Et le dernier c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve? La preuve, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin ba'dih. On va donner quelle est la preuve d'abord que Noé, c'est le premier. Et que ensuite on va donner et que la preuve que Mohammed est le dernier. La preuve que Noé, alayhi salam, c'est le premier, c'est le verset qu'on a vu maintenant. C'est le verset qu'on a vu maintenant. Nous t'avons fait une révélation quand nous fîmes à Noé Et au prophète après lui, qu'est-ce qu'il a dit? Nous fîmes à Noé, il a commencé par Noé, par Noé. Donc c'est lui le premier messager. Et au prophète après lui. Au prophète après qui? Après Noé. Donc avant Noé, il n'y a pas. Avant Noé, il n'y a pas. C'est après Noé qu'il y a les prophètes. Naam. Ici, prophète aussi dans le sens de messager. Sinon, Adam alayhi salam, comme vous savez, c'est le premier qui? C'est le premier prophète. Naam, Adam alayhi salam, c'est le premier prophète. Et Noé alayhi salam, c'est le premier messager. Je répète, Adam, c'est le premier prophète. Et Noé, c'est le premier messager. Naam. Ensuite, il a dit, au fils Sahihain, dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité un hadith long, long, mais le témoin du cours, c'est quoi? C'est que, ils sont, quand ils sont debout, la soif, le soleil qui descend, etc., l'âme tout nu. Ensuite, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, combien qu'on va rester comme ça, car ils vont rester des années et des années. Ils vont dire, il faudrait qu'on cherche une solution. On cherche une solution. Ensuite, quelqu'un va dire, ou bien un groupe va dire, si on allait voir qui? Si on allait voir notre père, Adam alayhi salam, peut-être qu'il pourrait nous faire l'intercession. L'intercession qu'il demande ici, ce n'est pas pour entrer au paradis, non, pas du tout. Seulement que Allah Ta'ala vienne pour trancher. Pour trancher et dire, toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis. Seulement pour trancher. On ne parle pas du paradis. Al-Muhim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, et si on allait voir Adam alayhi salam, Adam. Pourquoi? Car c'est lui le premier prophète et c'est lui le père de l'humanité. Bon, quand ils vont le voir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que je peux pas, j'ai fait une faute. Allah Ta'ala m'a interdit de manger de l'arbre. J'ai mangé. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, allez, nam, allez voir Nuh, alayhi salam. Nuh, alayhi salam. Quand les gens vont voir Nuh, alayhi salam, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, Anta awwalur rusul ila ahli al-ard. Ya Nuh, toi, tu es le premier prophète, messager envoyé sur terre. Donc, ils lui font une sorte d'éloge. Quand tu veux demander à quelqu'un une chose, tu commences pas par lui demander la chose. Fais-lui des éloges, dis-lui, toi, tu es ceci, cela, sans mentir, sans mentir. Rappelle-lui qu'est-ce qu'il est, sans mentir. Ils lui ont dit, toi, tu es le premier messager sur terre, yani, mashallah, l'importance que tu as, qu'Allah Ta'ala t'a donné le statut élevé que tu as, yani, si tu pouvais nous faire l'intercession. Donc, le témoin ici, c'est quoi? Ils lui ont dit, tu es le premier messager sur terre. Donc, Nuh alayhi salam, c'est le premier messager. Amma dalil, kounou nabi alayhi salam, akhir rasoul, quant à la preuve que notre prophète Mohammed alayhi salam, c'est le dernier messager, c'est quoi? C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullahi wa khatam an-nabiyyin. Al-Ahzab 40. Mohammed n'a jamais été le père d'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Taïb, avant d'aller à autre chose, peut-être. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit, Ana khatamun nabiyyin. Ana khatamu an-nabiyyin. Il a dit, je suis le dernier des messagers, des prophètes. Ana khatamu an-nabiyyin. Donc, avant d'aller à autre chose, la différence entre un messager et un prophète, c'est que le messager vient toujours avec un message, un nouveau message, donc une nouvelle législation. Sharia, une nouvelle législation. Vous comprenez? Alors que le prophète ne vient pas avec une nouvelle législation, mais il vient pour continuer la législation du messager de celui qui l'a suivi, qui l'a précédé. Je répète, un messager vient toujours avec une nouvelle, yani, législation, sharia, un nouveau message. Pas dans la aqida. Dans la aqida, c'est toujours la même chose, que Allah est unique et qu'il faut l'adorer, ça. Non. Mais dans la législation. Dans la législation, il rapporte, il vient avec des choses nouvelles. Alors que un prophète ne vient pas avec une nouvelle législation. Mais il vient, disons, consolider, il vient fortifier ce qu'a ramené le messager qui l'a précédé. Et certains ont dit, ça aussi c'est juste, certains ont dit, un prophète. Allah Ta'ala l'envoie à un peuple, yani, auquel il y a entre lui et eux la guerre. À un peuple, disons, belligérant. Il y a la guerre entre lui et, yani, ils le détestent, ils lui font des coups, ils, ceci, ils veulent le tuer. Ça, c'est le messager. Quant au prophète, il est envoyé à un peuple envers lequel il n'y a pas, entre lui et ce peuple, de l'adversité et de l'animosité. Vous avez compris? Le messager, il est envoyé à un peuple où il y a de l'adversité entre lui et ce peuple. C'est pour ça qu'ils veulent le tuer, ils ne veulent pas le croire ni le suivre, etc. Mais le prophète, quand il vient à un peuple, l'âme, où il n'y a pas cette chose entre lui et eux. Pourquoi? Car le messager l'a déjà précédé et yani, lui a déjà yani, préparé le chemin, si on peut dire. Il lui a déjà préparé le chemin. L'âme. Mais ceux qui disent, et ça, beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens, ceux qui disent que la différence entre le messager et le prophète, c'est que le messager, Allah Ta'ala, lui a révélé un message et lui a ordonné de le propager. C'est un messager. Alors que le prophète, Allah Ta'ala, lui a révélé un message et ne lui a pas ordonné de le propager. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et c'est contraire. C'est même contraire. Naam, yani, à la aqida ou minhaj. C'est contraire. Pourquoi? Car, si le prophète, Allah Ta'ala lui donne un message, mais ne lui ordonne pas de le propager. À quoi ça sert donc qu'il lui donne le message? À quoi ça sert que quelqu'un soit prophète dans ma ville ici, dans cette ville, et que, yani, il ne propage rien. Tout ce qu'il sait, il le garde pour lui. Il s'enferme dans la maison et yani, il ne, comment on dit ça? Il ne réprouve pas, par exemple, le blâmable. Il n'ordonne pas le bien. Il ne condamne pas le mal. Donc, à quoi ça sert ce prophète? Qu'est-ce qu'il fait? C'est juste pour lui. Et ça, c'est logiquement, donc c'est pas accepté. Logiquement, c'est pas accepté. Qu'en est-il maintenant? Il y a un hadith authentique qui se trouve dans Sahih Muslim, où le prophète alayhi a dit que il n'y a pas un prophète que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait envoyé. Il a dit prophète que Allah ta'ala n'ait envoyé sans que Allah ta'ala ne lui ait dit, sans que Allah ta'ala ne lui ait ordonné quoi? Qu'il ordonne le bien aux gens et qu'il leur interdise le mal. Le mal. À peu près en ce sens, mais c'est un hadith authentique. Celui-là, il est clair. Clair que il n'y a pas un prophète qu'Allah Ta'ala a envoyé sans que c'est obligé pour lui qu'il montre le bien qu'il connaît aux gens et qu'il montre le mal qu'il connaît pour que les gens s'éloignent de ce mal. فعلينا أن نؤمن بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالتهم. طيب Il a dit, le cheikh Rahimallah, il a dit, rentre dans le fait de croire en les messagers, en les prophètes, rentre dans ceci quoi? Le fait d'attester que quoi? Que tous les prophètes, et aussi bien sûr les messagers, sont des véridiques. Et sont véridiques dans le fait de quoi? De ce qu'ils propagent. Et que jamais c'est impossible que quelqu'un, yani, mente. Non, que quelqu'un mente ou alors cache quelque chose de la religion. Non, si quelqu'un va croire que cette chose, il est possible qu'un prophète yani, cache quelque chose de la charia ou bien mente sur Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là il devient kafir comme vous le savez. Comme vous le savez. وعلينا أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تعين أسماؤهم لنا فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال. Il a dit, tous les prophètes et les messagers qui ont été cités dans le Coran ou bien dans des hadiths authentiques, ceux-là, on doit croire en eux, avec les noms, avec leur nom exactement comme leur nom a été rapporté dans le Coran et la Sunna. Et les autres, il y a 124 000 là, 124 000 prophètes. Les 315, on ne connaît même pas les 315. Et tous les autres qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On croit en eux globalement. C'est comme je vous dis maintenant, jamais quelqu'un me dit combien il y a de prophètes. Je lui dis il y a 124 000. Cite-les-moi. Je dis, je cite seulement 10 ou 15 ou 20, seulement ceux que je connais. Allah Ta'ala m'a pas ordonné de citer quelqu'un que je ne connais pas et qui ne m'a pas fait connaître son nom. Vous avez compris? Et combien de messagers? Il y a 315. Combien? J'en connais 15 ou 20 ou 25, c'est tout. Et comme ça. Al-Muhim. Wa alayna an-nu'min anna ma min ummatin illa arsala Allahu ilayha rasulan li taqum alayhim al-hujja. كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم le cheikh dit رحمه الله et on doit croire aussi que il y a pas une communauté à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé de messager. Pourquoi? Il a dit pour établir la preuve sur eux, pour établir la preuve sur eux. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ce messager? Pour leur dire, adorez Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous du tarout. Le tarout, c'est yani, tout ce qui dépasse les limites. Et ici, dans le sens où il dépasse les limites et il demande à être adoré. Avec Allah ou bien sans Allah. Il voudrait qu'il soit adoré. Ou alors, on l'adore. Yani, il n'a pas demandé aux gens qu'on l'adore. Mais il l'adore et lui, il consent. Il consent, il se tait. Non, on l'appelle tarout. On dit celui-là, c'est un tarout. Et le shaitan, bien sûr, c'est le plus grand tarout qui ait existé. Un mouhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, « Wa in min ummatin illa khala fiha nadir » pour montrer qu'il n'y a pas une communauté ou une nation à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé le messager, il a dit, « Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. » Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Non. Si quelqu'un va dire, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de chercher le hadith dans Wesmo. Pas le verset qui se trouve dans Sourate Yassine, vous connaissez tous Sourate Yassine, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, dit tundira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Yassine a dit pour que tu propages la révélation yani, à des gens ou à une nation, hein, il a dit dont les pères n'ont pas été avertis, dont les pères n'ont pas reçu la révélation, si je puis dire. Quelqu'un va dire donc, comment il y a une contradiction? Ici, Allah Ta'ala a dit il n'y a pas une nation qui n'a pas eu d'avertisseur. Et il a dit, un peu plus haut, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Et comment se fait-il? Dans Sourate Yassine, il a dit qu'il y a des pères de certains gens qui n'ont pas reçu de messager. On va dire, pour prouver qu'il n'y a pas de contradiction, on va dire, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une nation à laquelle il n'a pas envoyé de messager. Il n'y a pas une nation à laquelle il n'a pas envoyé de messager. Reste quoi? Reste que, s'il envoie un messager, par exemple, il l'a envoyé, supposons que ça soit en notre temps maintenant. C'est pas obligé que sa da'wa arrive jusqu'à yani, en Amazon ou je ne sais pas où, dans les coins les plus retirés. Mais il se peut qu'il y ait des gens qui vivent là-bas et n'ont pas reçu la révélation alors qu'il y a un messager qui vit là, yani, parmi nous, qui vit là parmi nous. Et ensuite, il y a aussi une chose yani, qui rentre dans l'exception aussi, c'est qu'il y a des moments comme ça, des moments, ou alors comment ça s'appelle, des siècles comme ça, qui peuvent passer, sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie quelqu'un. Pourquoi? Car il leur a ordonné de suivre, yani, il n'y a pas une nouvelle, il n'y a pas une nouvelle révélation, disons, il n'y a pas un nouveau messager. Donc il faut suivre, yani, les anciens. C'est un peu comme les Arabes, au temps des Arabes, Abu Jahl et Quraysh, etc. Quand yani, le prophète Aslam est venu. Il les a trouvés dans quoi? Dans le shirk. Il devait suivre qui? Il devait suivre la da'wa de Ibrahim alayhi salam. Il devait suivre la da'wa de Ibrahim alayhi salam. Mais ils ont dévié. Mais ils ont dévié de lui. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Naam. Quant à la preuve, quant à la preuve. Non, c'est pour cela que, ici, je dis une chose, c'est pour cela que, yani, toute personne qui n'a pas reçu la révélation, qui n'a pas reçu la révélation, comme on parle des gens qui vivent, par exemple, dans des endroits vraiment retirés, qui vivent comme à l'ère préhistorique, ceux-là, non, ceux-là, il y a un hadith authentique qui dit que, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer un messager. Allah ta'ala va faire dans leur cœur, comme ça, il va les inspirer pour qu'ils ressentent, c'est comme s'ils étaient sur terre. Et que, voilà, celui-là, c'est un messager que j'ai envoyé. Ensuite, ce messager va les éprouver, va leur demander de rentrer en enfer pour voir s'ils vont le suivre. Et il a dit que toute personne qui le suit, non, qui veut le suivre, celle-là, c'est comme si elle avait cru si Allah Ta'ala l'avait envoyé ici sur terre. Toute personne qui refuse, c'est comme si, yani, Allah Ta'ala sait que si ce messager lui était venu sur terre, elle ne l'aurait pas suivi. Et ceux qui vont être éprouvés, Yawm al-Qiyamah, il y a quatre sortes qui ont été citées dans un hadith sahih. Quatre sortes de gens vont être éprouvés, Yawm al-Qiyamah, et Allah Ta'ala va leur envoyer un messager. Il a cité, si je me rappelle bien, il a cité le sourd-muet. Non, le sourd-muet qui va dire, attendez, le sourd-muet, il a cité Afwan, le sourd, qui, yani, va dire Yom Qiyamah, ya Allah, yani, je n'ai pas entendu qu'il y a eu un messager. Ya Allah, pour moi, j'ai jamais entendu qu'il y a eu un messager. On va dire que, Allahu Ta'ala alam, je ne pense pas que de nos jours, le sourd rentre toujours dans ce hadith. Car de nos jours, le sourd, yani, comme vous savez, il va à l'école, il apprend, surtout s'il vit parmi les musulmans. Non. Il lit, il voit la télé, il voit ceci, il lit les livres. Donc c'était pas comme le sourd autrefois. Il y a un sourd comme ça dans un village, entre les kofars. Comment qu'il va savoir qui a un messager? Donc le sourd. Et il y a la personne qui a perdu la raison. Qui a perdu la raison. Et il y a la personne, la troisième, celle qui a, la personne quand elle vieillit, et aussi, yani, elle perd la raison, elle commence à dire n'importe quoi, etc. D'ailleurs, le hadith a dit que la personne qui a perdu la raison va dire, ya Allah, yawm al-qiyamah, ya Allah, moi, yani, vous avez envoyé un messager, mais yani, j'avais pas la raison. D'ailleurs, les enfants me jetaient comme ça, me frappaient avec les excréments des chamelles, etc., des chameaux, frappés avec les excréments. Ce sont comme les excréments des moutons, par exemple. Il dit, moi, quand je marchais dans la rue, les enfants me frappaient. C'est vraiment délire qu'il avait perdu la raison. Et il a dit, la quatrième sorte, il a dit, وَرَجُلٌ عَاشَ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ. Il a dit, et la quatrième personne, une personne qui a vécu entre l'envoi de deux messagers. Il y a un messager qui a été envoyé, ensuite un vide, ensuite un messager est venu. Celui qui a vécu dans le vide, va dire, Yom al-Qiyamah, ya Allah, moi, yani pour moi, il n'y avait pas de messager, je n'ai rien entendu en ce sens, etc. Et les savants disent, c'est à peu près de nos jours, quand quelqu'un qui vit vraiment dans un endroit, vraiment retiré du monde, et il n'a pas de relation avec les êtres humains, etc., ou avec les hommes. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime quoi? Aime établir quoi? La preuve sur les gens. Allah subhanahu wa ta'ala aime établir la preuve sur les gens. C'est pour ça qu'il a dit, Rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'd ar-rusul. Li alla yakuna lin-nasi Allah hujja ba'd rusul. Comme dans le verset ici, ils ont été envoyés en tant que messagers, annonciateurs, avertisseurs. Pourquoi? Afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens, là, il n'y aura pas pour les gens, il n'y aura pas pour les gens des arguments devant Allah. Alors, c'est pour ça que le prophète a dit, il n'y a pas quelqu'un qui aiment des arguments comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelqu'un qui aime établir la preuve plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Et la règle dit quoi? La règle dit que c'est impossible et inconcevable de penser que quelqu'un puisse, yom al-qiyama, établir la preuve sur Allah. C'est-à-dire, Allah Ta'ala va dire à une personne pourquoi ceci, l'autre va dire à cause cela, ceci, et c'est la personne qui va avoir le dessus. Et Allah Ta'ala va dire, bon alors tu as raison, je me suis trompé. C'est pas possible. Non, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui quoi? C'est lui qui établit quoi? Établit la preuve sur les gens. C'est pour cela qu'il envoie les messagers. S'il n'envoyait pas de messagers, tout le monde voudrait quoi? Établir la preuve sur Allah et dire à Allah, pardon, mais c'est de votre faute. Moi, si vous m'aviez envoyé un messager, je ne serais pas sorti de la mosquée. Tout mon argent, je l'aurais donné, j'aurais construit des mosquées, j'aurais envoyé des gens au hadj, j'aurais fait ce. Mais c'est de votre faute, c'est vous qui n'avez pas envoyé de messager. Alors, Allah Ta'ala veut établir la preuve sur toi maintenant. Il t'a envoyé un messager, est-ce que tu le suis ou tu ne le suis pas? Non. Le cheikh dit, wa alayna an nusaddiq بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل من جهة النقل ونعلم أنه حق le cheikh dit il faudrait aussi croire يعني en toute chose que rapporte un message ou un prophète si jamais la chose يعني bien sûr est rapportée avec une chaîne de transmission authentique c'est-à-dire existe dans le Coran ou bien dans un hadith authentique. Vous avez compris, toute chose qu'un messager rapporte, nam, et que la chaîne de transmission est authentique, nam, yani, c'est obligé de croire en cette chose. C'est obligé de croire en cette chose. Et même si quoi, même si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas convaincu. Il y a le prophète Islam qui dit telle et telle chose, et toi tu n'es pas convaincu de telle chose, tu dois quoi, croire en cette chose. Et même être obligé d'être convaincu. Pour que tu aies quoi? Pour que tu aies un cœur apaisé. Pour que tu aies un cœur apaisé. Car si vraiment tu connaissais qu'est-ce que ça veut dire un messager et son statut, et yani, tu connaissais ses facultés, et ce que lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala, comme yani, faculté, comme pouvoir et comme yani, un grand statut, n'am. Si tu connaissais bien le messager et les messagers, jamais tu n'aurais eu un brin de doute en ce qu'ils disent. Jamais, jamais, jamais. Tout ce qu'il dit, tu dis oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Même si je n'ai pas compris le sens ou bien je ne suis pas convaincu, mais c'est vrai, je suis sûr. Je comprendrai plus tard. Ou alors je comprendrai le jour de la résurrection. Moi je suis un djihad, je suis un ignorant. Non. Mais les autres font le contraire. Ils disent non, il s'est trompé ce messager. Qu'est-ce qu'il a dit là? Non, ce n'est pas possible. Ça contredit la science. Ça contredit la logique, ça contredit la technologie, c'est pas vrai, ça c'est pas possible. Non, parce qu'ils connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire un messager et que il ne fait, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que propager ce que Allah Ta'ala lui a dit de propager. Jamais il ne parle de ses passions, basé sur ses passions, mais il parle basé sur la révélation. Donc, si tu dis qu'il s'est trompé, ça revient à dire que donc Allah Ta'ala s'est trompé. Car c'est pas lui qui parle. Lui, c'est un émissaire. Il a été envoyé pour parler à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment se fait-il? Et tu sais qu'il ne ment pas, que c'est impossible qu'il mente. Donc, comment se fait-il que yani, il puisse se tromper? C'est pas possible. Sauf si c'est quelque chose, comme j'ai dit, quelque chose de la dunya. Dans la dunya, le prophète Hassan m'a dit que vous connaissez la dunya mieux que moi. Il a dit, vous connaissez les affaires de cette dunya mieux que moi. C'est-à-dire, toi, tu connais la dunya mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu connais yani, la voiture, combien il y a de boulons, combien il y a de vis dans le truc, dans femme. Des choses que lui, il ne connaît pas, sallallahu alayhi wa sallam, ça a rapport avec la dunya. Mais dans la législation, la sharia, non, c'est pas possible. Là, dans l'akhira, ou là, les choses qui ont rapport avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et son message. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Wa alayna an nattabi'a khatama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est obligé pour nous de suivre leur dernier, C'est-à-dire le dernier des messagers. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il a dit, car c'est celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a quoi? Nous a ordonné de suivre. Comme il a dit dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ça donne en français. Dis aux hommes, ou là, aux hommes, je suis pour vous tous, le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux, c'est-à-dire Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc, je suis pour vous tous, pas pour les Arabes, pas pour les musulmans, pour vous tous. Vous tous, c'est qui? Il a dit avant cela, ô hommes, vous les hommes, les êtres humains, je suis pour vous tous le messager d'Allah. C'est qui Allah? Celui auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité par lui. Il donne la vie, il donne la mort. Donc croyez en Allah et croyez en son messager, c'est-à-dire moi. Qui moi? Le prophète illettré. Je suis illettré. Naam. Car s'il avait écrit, si c'était quelqu'un qui écrivait, qui lisait, les gens, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, donc, il y a ni ce message-là, naam, et il le ramène de d'autres gens, ou là, de son père, ou là. Non, mais celui-là, jamais il n'a lu, jamais il n'a écrit. C'est pour ça que, il y a ni comment se fait-il qu'il puisse savoir toutes ces choses-là. Naam. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Dis, ya Muhammad, dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc c'est impossible que quelqu'un aime Allah subhanahu wa ta'ala et ne suive pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ce verset, Allah Ta'ala l'a fait descendre spécialement pour éprouver certains gens qui ont dit, nous on aime Allah, nous on aime Allah. Ah bon, vous aimez Allah, quelle est la preuve? Il n'y a aucune preuve. Donc, je vais vous faire descendre une preuve sur laquelle vous pourrez dorénavant vous baser pour savoir si vraiment la personne aime Allah ou pas. C'est quoi? Regardez cette personne qui dit, j'aime Allah, est-ce qu'elle suit le prophète Islam ou elle ne le suit pas? Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera alors vos péchés. Si vraiment tu aimes Allah, tu dois suivre le messager alayhi salam. Quiconque, naam, veut rentrer au paradis sans frapper par la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'y rentrera. Le paradis est fermé, bloqué, jusqu'à ce que vienne lui, alayhi salam, l'ouvrir pour que les gens puissent rentrer yom al-qiyama. Naam. Et ici aussi, c'est bloqué. Tout ce que tu fais, naam, s'il n'y a pas le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est en l'air. Ça part, yani, dans la poussière. Aimer Allah, sans suivre son messager, ça ne marche pas. Dommage, je dis dommage. Pourquoi je dis dommage? Je dis dommage parce qu'il y a une secte de nos jours qui s'appelle le Qur'aniyoun. Je dis en français à peu près les coraniques ou quelque chose comme ça. Yani, pourquoi on les appelle comme ça? Car ils disent on ne suit que le Coran. Non, mais cette secte, croyez-moi, malheureusement, hein, yani, elle a des millions d'adeptes. Je ne dis pas des milliers, je dis des millions d'adeptes. Surtout, yani, aux États-Unis, au Bangladesh, en Inde, des pays où il n'y a pas la science, où il n'y a pas la sunna. Non. J'en ai plein, plein. Naam. Et il y a beaucoup de reconvertis, nouveaux, qui tombent dans cette secte. Naam. Qui tombent dans cette secte. Et cette secte, malheureusement, à part qu'elle a yani, des sites, etc., sur Internet, qui s'appelle Qur'aniyoun, à part cela, ils ont même des chaînes de télé. J'ai bien dit des chaînes, pas une chaîne. Des chaînes de télé, spécialement, naam, où on dit, nous on suit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai islam. Tu suis Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, tu n'es pas obligé de le suivre. Tu n'es pas obligé. Pourquoi? Car ils disent, il y a des hadiths qui sont daïfs, et on ne sait pas quel est l'authentique et le faible. Et ensuite, le prophète, c'est un homme comme nous. Naam, il peut se tromper, il peut ceci. Mais quand tu prends le Coran, tu es sûr que tu ne t'es pas trompé. Et que tu as pris une chose, yani sûre. Et nous, on leur dit, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, on va vous donner une preuve très 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 simple que vous n'êtes pas véridique, que vous êtes des menteurs et que vous ne cherchez pas le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils vont dire c'est quoi? On va leur dire, vous dites qu'il faut suivre le Coran. Ils disent oui, il faut suivre le Coran. D'accord. Alors comment qu'on fait de ce verset par exemple? Comment qu'on fait de ce verset qui dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi, c'est-à-dire moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce verset? Donc le contraire, le Coran lui-même est contre vous. Le Coran a établi la preuve contre vous. Le Coran Yom al-Qiyama va vous faire rentrer en enfer. Vous savez ça. Le Coran Yom al-Qiyama va vous faire rentrer en enfer, pas au paradis. Et qu'est-ce qu'on fait des dizaines de versets? Wati'u Allah wa ati'u Rasul. Suivez Allah et suivez le prophète sallam. Man yuti'i Allah wa rasulahu. Ceux qui suivent Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Et des dizaines de versets. Qu'est-ce qu'on fait de ces versets, tous ces versets? Donc, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de réponse. Ce ne sont pas des vérités. Al-Muhim. Il a dit, Amma masiwah min rusuli, fa inna nattabi'uhum idha warada sha'ala ibn al-Tu'am. Il a dit, à part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les autres messagers, il a dit, on les suit seulement si notre religion, nous a ordonné de les suivre. On ne les suit que si notre religion nous a ordonné de les suivre. Il a dit, mitlu qawli alayhi wa sallam, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, afdalu salati salatu Daoud, akhi Daoud. La meilleure des salates, c'est la salate de Daoud alayhi salam. Kana yanamu nisf al-layl. Il dormait la moitié de la nuit. Wa yaqum thuluthah. Et il priait le un tiers. Ensuite, il dort un sixième. Il a dit donc, si quelqu'un va prier comme Daoud alayhi salam, c'est permis. C'est même dit que c'est la meilleure prière. Et il a dit aussi alayhi salam, afdalu siyam. Le meilleur jeûne, c'est le siyam de mon frère Daoud. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait un jour et mangeait un jour. Il jeûnait un jour et mangeait un jour. Donc ici, moi, je peux suivre Daoud ou là je peux pas? Je peux suivre Daoud. En quoi? Dans toute chose, je jeûne de la journée. Non. Mais en fait, quand je prie comme Daoud la nuit, ou bien je jeûne comme Daoud la nuit, est-ce que c'est à cause de Daoud, alayhi salam, ou bien à cause du prophète, alayhi salam, qui m'a recommandé cette chose? La réponse c'est quoi? C'est la deuxième. Ce n'est pas à cause de Daoud alayhi salam, mais c'est à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad qui m'a dit fais comme Daoud. Si tu peux, fais comme mon frère Daoud. Donc c'est lui qui m'a recommandé cela. Sinon j'aurais pas suivi Daoud alayhi salam. Non. Il a dit amma idha lam yarid shar'un bil amri bittiba' fa hada ikhtilafihi. Il a dit quant à si dans notre religion, il n'y a pas quelque chose qui dit suivez tel ou tel prophète. Il a dit, dans ce cas, il y a quoi? Il y a une divergence chez nous. Il y a une divergence chez les savants. Hal shar'u man qablana shar'un lana? Est-ce que la législation de ceux qui nous ont précédés, les messagers qui nous ont précédés, est-ce que leur législation, c'est aussi une législation pour nous? Non? Tant qu'il n'y a pas dans le Coran quelque chose qui la contredit, ou bien ce n'est pas de leur législation, n'est pas une législation pour nous, non, jusqu'à ce que vienne quelque chose dans notre législation qui nous ordonne de suivre leur législation. Wa sahih. Et l'avis le plus juste. Anna shar'a man qablana, que la législation, non, la révélation, ou la sharia, de ceux qui nous ont précédés, c'est aussi une sharia pour nous, tant qu'il n'y a pas quelque chose dans le contraire, dans le Coran qui la contredit ou là dans la sunna. Je répète, le résumé, l'avis le plus juste que Cheikh Ibn Uthaymin a fait prédominer, c'est que Sharouman Kablana, la législation des messagers qui nous ont suivis, précédés Afwan, est aussi une législation pour nous. Tant que, à cette condition, je dis bien tant que, il n'y a pas dans notre législation quelque chose qui la contredit. Pourquoi? Quel est le délit? لأنه تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Le délit c'est quoi? Le délit qu'on les suit. Tant qu'il n'y a pas quelque chose chez nous qui interdit cette chose, il a dit, car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité les autres messagers, lorsqu'il les a cités dans le Coran, il a dit alors à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà ce que Allah Ta'ala a guidé. Il a cité des messagers, ensuite il a dit, voilà ce que Allah Ta'ala a guidé. Suis donc leur direction. Suis-les. Voilà que Allah Ta'ala a guidé. Suis-les. Et il a dit aussi, dans un autre verset, il a dit, لَقَدْ كَانَ طَيِّبْ فَبِهُدَهُ مُقْتَدِي. Non, dans un autre verset, c'est encore plus clair. Il a dit, non, j'ai oublié ce verset ici. J'ai oublié le verset ici. Il a dit, c'est cela qu'il faut suivre. فَبِهُدَهُ مُقْتَدِي. C'est cela qu'il faut suivre. Non. Et même Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, en parlant des messagers qui nous ont précédés, il a dit, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Comme Cheikh Lahmoud dit dans un autre livre, il a dit, à quoi ça sert que Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des messagers qui nous ont précédés, naam, si c'est seulement dans le but de les citer. Mais il a cité dans le but de quoi? Qu'ils soient un modèle pour nous. Soit un modèle pour nous, pour qu'on les suive. À condition que quoi? À condition qu'il n'y ait pas dans notre sharia quelque chose qui contredit cela. S'il y a quelque chose qui contredit, on ne doit pas les suivre, comme vous savez. Et il y a une preuve très claire aussi, que yani on les suit, c'est que, une fois le prophète Aslam a dit à quelqu'un qui lui a dit, j'ai oublié de ne pas prier, ou alors je me suis endormi, il a dit, à peu près, il a dit, si tu te réveilles, ou là, quand tu te réveilles, prie. Comme ça, il a dit, hadith authentique. Il a dit, quand tu te réveilles, prie. Ensuite, il a cité un verset. Il a dit, wa aqimi salata li dhikri. Wa aqimi salata li dhikri. Et, yani, fais la salat quand, yani, tu te souviens, pour quelqu'un qui a oublié. Et ce verset, fais la salat quand tu te souviens, je l'ai traduit après en ce sens, approximativement. Ce verset-là, Allah Ta'ala l'a dit à Moussa alayhi salam. Il parlait de Moussa, il lui a dit, wa aqim salat li dhikri. Inna sa'ata atiyatun. Naam, wa aqim salat li dhikri. Allah Ta'ala l'a dit à qui? L'a dit à Moussa alayhi salam. Et le prophète alayhi salam, le même verset qui a été dit à Moussa, l'a employé. Il a dit à une personne qui lui a dit, j'ai oublié de faire la salat, je me suis endormi. Il lui a dit, waqim salat li dhikri. Il s'est basé sur un hadith qui est descendu sur Moussa alayhi salam. Mais comme on a dit, parce qu'il est dans notre Coran premièrement, et deuxièmement, il n'y a rien dans le Coran qui contredise cette chose. Naam. Ensuite, Cheikh dit pour terminer, il a dit, il a dit, c'est pour ça que des savants, on a beaucoup de savants, ont pris de la sourate de Yusuf alayhi salam, Joseph, ils ont pris de sa sourate beaucoup d'intérêts et de règles, beaucoup d'intérêts et de règles. Naam. Fi ahkamin shar'iyya fi qadariri. Il a dit dans des règles qui ont rapport avec la sharia, il a dit même dans le qada. Le qada, c'est yani le fait, on est comment ça, yani le juge et yani, comment ça s'appelle ça, le qada, la justice, etc. Enfin, quand quelqu'un va au tribunal, etc., naam, les lois qui ont rapport avec le fait comment juger entre les gens, etc. Ils ont dit, ils ont pris de sorte Youssouf, alayhi salam, ils ont pris même des choses qui ont rapport avec le juge, comment qu'il fait. Donc ils ont dit, c'est une preuve que yani, on suit yani, des choses qui ont rapport avec Youssouf. Youssouf, c'est pas notre messager. C'est notre messager en le sens qu'on croit en tous les messagers. Mais il n'a pas été envoyé pour nous, ou là à nous. Mais malgré cela, là, quand il a cité son histoire, yani avec Zuleika, les savants ont pris beaucoup de choses de cette histoire. Et Cheikh a dit, par exemple, ils ont pris quoi? Entre autres, ils ont pris comment, yani, que le fait qu'on puisse établir la preuve, en se basant seulement sur des choses externes. En se basant sur des choses, yani, externes, comme par exemple, je vais citer ici, comme par exemple, lorsque la Ta'ala dit, wa shahida shahidun min ahliha, in kana qamisuhu quddan min qubul, fa sadaqtu wa min kadibin, wa in kana qamisuhu quddan min dubur, fa kadabtu wa min sadiqin. Le verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Joseph, c'est-à-dire a dit, alayhi salam, il a dit, c'est elle qui a voulu me séduire. C'est elle qui a voulu me séduire. C'est pas moi qui me suis proposé à elle. C'est elle qui a voulu me faire tomber dans le haram. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Entre parenthèses, je dis, un témoin ici, certains, beaucoup, pas certains, beaucoup, disent un petit enfant dans le berceau a parlé, et a témoigné, et a dit, hein, il a dit, si sa tunique, etc. etc. Mais, Cheikh Al-Albani dit, rahimallah, il dit, c'est pas un bébé. Il dit, c'est laïf, c'est faible. Il dit, sahih, c'est un homme âgé, il a dit même barbu. C'est un homme âgé, barbu, qui a témoigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa femme, il a dit, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité. Tandis que il est lui du nombre des menteurs. Naam. Et ensuite, on termine ça. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit. Tandis que lui, il est du nombre des véridiques. Naam. Cette chose est citée dans quoi? Dans Sourate Yusuf. Dans Sourate Yusuf. Donc, maintenant, yani, elle dit que c'est lui qui a voulu, yani, la forcer à faire la chose. Et lui, il dit non, c'est pas vrai, c'est elle qui a voulu me séduire. Et ensuite, quand elle a rencontré son mari, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, yani, que doit-on faire à quelqu'un qui voudrait, yani, faire du mal à ta famille, c'est-à-dire à ton épouse, c'est-à-dire il a voulu me faire du mal. Naam. Et à part la prison, etc. Donc, subhanallah, comme quoi, yani, c'est lui qui avait voulu la forcer. El Mouhim. Donc ici, il n'y a pas de preuve. Chacun dit, c'est l'autre qui est fautif. Comment qu'on va faire? Ici, une personne que Allah Ta'ala a inspirée a témoigné que vous pouvez prendre yani, des délits comme ça, yani, qu'on appelle en arabe qara'in, pluriel de qarina. Des délits comme ça, yani, externes. On se base sur certaines choses et on voit. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir sa tunique. Si elle est déchirée par devant. Donc, c'est lui qui a voulu aller vers elle et elle est en train de le repousser, de crier, de déchirer sa chemise. Elle l'a déchirée. Donc, c'est elle qui dit la vérité et lui, c'est un menteur. Mais si par contre sa tunique est déchirée par arrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il a couru et c'est elle qui ne veut pas le lâcher. Elle ne veut pas le laisser partir, ou alors elle court derrière lui, et lui il veut s'enfuir et elle le tire. Non, il faut faire ceci, cela, le mohim. Et elle a déchiré sa tunique. Alors dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui le véridique et c'est elle qui a menti. Et le verset, qu'est-ce qu'il a dit un peu plus bas? Il a dit, puis quand le mari de Zuleika, a vu que la tunique était déchirée par derrière, il a dit, c'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Nam, il a dit. Yani, maintenant j'ai une preuve formelle que c'était une de vos ruses et que yani, sa femme était une menteuse et que c'était lui le véridique. Et je dis entre parenthèses, et malgré cela, ils l'ont fait entrer en prison. Comme dans le verset, bon, je ne l'ai pas cité en français. Je crois. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ensuite après qu'ils aient vu tout ça, ils ont décidé de le mettre dans la prison. Alors qu'ils ont vu, yani, les choses claires que il était innocent, que c'était elle la fautive. Pourquoi ils vont le mettre en prison? Ils vont le mettre en prison pour faire oublier l'affaire. Pour faire oublier l'affaire. C'est la meilleure solution, nam, de yani, cacher la chose. Yani, c'est de la comment qu'on dit, c'est de l'étouffer. Quand il va en prison, yani, Ça se propage pas, c'est pas si s'il va rester comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des centaines de gens, si c'est pas des milliers, qui sont curieux, qui vont venir demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai que Zuleha t'a demandé cette chose, ceci, cela? Les gens vont connaître la vérité. Et si on va l'éloigner, on va le jeter en prison quelques années. Certains ont dit qu'il est resté 11 ans, d'autres ont dit 15 ans. Là, d'autres ont dit 14, d'autres ont dit 13. Une moyenne plus de 10. Un moyen, quand il va sortir, yani, les gens auront oublié. Un donc on a pris de sortie aussi difficile le fait de se baser sur des délits comme ça externes. Comme ici quoi, on va voir de quel côté a été déchirée la tunique. Il y a aussi un délit, par exemple, externe aussi, très connu, dans un hadith authentique, que deux femmes ou deux sœurs, nam, avaient deux bébés. Elles étaient comme ça, dans la forêt par exemple, et il y a un loup qui est venu, qui a pris l'un des deux bébés. Ensuite, les deux femmes, quand elles ont remarqué qu'il manquait un bébé, les deux ont dit, c'est mon bébé. Chacune des deux a dit, c'est mon bébé, nam, celui-là et pas le tien. Un mohem, taqillah, taqillah, chacun dit, c'est mon bébé. Ils ont rencontré Daoud, alayhi salam, Daoud, nam. Ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Et il a donné quoi? Il a donné, yani, raison à la grande, la plus âgée. Il lui a dit, c'est ton bébé. Alors la moins âgée, des deux sœurs, a dit, moi je n'accepte pas jusqu'à ce qu'on aille voir Souleymane. Souleymane, fils de Daoud. Et vous savez qu'Allah Ta'ala cite dans le Coran que Allah Ta'ala avait donné à Souleymane ce qu'il n'avait pas donné à Daoud. Dans le fait de quoi? De yani, commander entre les gens et être juge. Un mohim. Lorsqu'elles sont allées voir Daoud, Souleyman alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon alors ramenez-moi un couteau. Un couteau pour que je le coupe en deux, que chacun, inchallah ta'ala, chacune de vous va prendre la moitié. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? La petite, la plus jeune, a dit, non, barakallahu fikoum, non, c'est pas la peine de le couper en deux, c'est pas mon fils. C'est son fils à elle, son fils à elle. Quand elle a dit ça, Souleymane alayhi salam a su quoi? A su que c'était son fils. Il lui a dit justement, alors c'est ton fils et pas le fils à l'autre. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit aussi ça, c'est le fait de juger avec des preuves externes. Externes. Comment externes ici? Ici, là, la fille, la jeune, quand elle a dit non, ne le tuez pas, c'est pas mon fils. C'est ça un délit que c'est son fils. La preuve, elle veut pas qu'il soit, yani qu'il meure. Tandis que l'autre, la menteuse, qui sait que ce garçon n'est pas son fils. Au contraire, voudrait bien que celui-là le coupe en deux. Au moins, les deux, par jalousie, n'auront pas de bébé. Hein? Ah, alhamdoulilah, le mien, je sais que le loup l'a pris, je suis en train de mentir et lui dire que c'est le mien. Hein? Maintenant, celui-là, il décide de le couper en deux. Ah, ya, qu'il le coupe en deux. Alhamdoulilah, aucune des deux n'aura un bébé. Mais Souleymane alayhi salam, et ce que lui a donné Allah Ta'ala comme ilm, et le fait de se baser sur ces délits-là, il a su que celle-là avait quelque chose dans le cœur. C'est-à-dire l'amour de cet enfant qui l'a poussé à ce qu'elle quoi? À ce qu'elle accepte que quelqu'un prenne son enfant, mais que son enfant ne meure pas. Une mère, si on lui disait, choisis entre. On va jeter ton enfant, là, du 10e étage, ou bien on va donner à une femme, elle va le prendre et l'élever. Tu le verras plus jamais. Qu'est-ce qu'elle va choisir? C'est sûr qu'elle va choisir que de le donner à une femme. Même une kéfira, à une juive. Donne-le à une juive, ça ne fait rien. Qu'il reste vivant seulement. Au moins je sais qu'il vit. Je sais que peut-être un de ces jours on va se rencontrer, peut-être qu'il va grandir, peut-être ceci, ce. Non, le fait de déjà que je sente que mon fils vit, même s'il est chez je ne sais qui. Donc, yani, ce qui prouve que Souleymane alayhi salam avait vraiment du haine. Un autre, il aurait dit, non, il aurait fait le contraire. Peut-être si j'étais moi comme ça avec mon ignorance, non, ah bon, j'aurais dit, ah bon, tu dis que c'est pas le tien. T'es sûr, hein? Et alhamdoulilah, je dis à l'autre, aïe, alhamdoulilah, prends ton enfant, elle vient de reconnaître que c'est pas son enfant. Et alhamdoulilah, je donne l'enfant à la plus âgée. Je dis, l'autre, elle a reconnu devant tout le monde que, alhamdoulilah, c'est pas son enfant. Alors que c'est le contraire, subhanallah l'adhim. Subhanallah l'adhim, wa la hawla wa la quwwata illa billah l'ali l'adhim. Al-Muhim, c'est ici que se termine le cours, inshallah ta'ala, le premier cours sur les messagers, alayhim salatu salam. Le prochain cours, inshallah ta'ala, de samedi aussi, sera sur les messagers, mais sur quelque chose que, yani, Cheikh Rahimallah, yani, n'a pas écrit. Cheikh s'est arrêté ici pour les messagers. Il a ajouté juste quelque chose sur, yani, est-ce qu'on les suit, on ne les suit pas, Sharman Kablan, etc. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Mais dans le prochain cours, inshallah ta'ala, je vais citer des choses sur les messagers, yani, leur miracle, est-ce que les messagers, par exemple, font les péchés ou ils font pas, si oui, est-ce qu'ils font des grands péchés ou ils font pas, des exemples de péchés, comme ça, inshallah ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, on se rencontre, inshallah ta'ala, dans 5 minutes. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc les trois premières questions, qui sont d'une sœur. Assalamu alaikum, hafizakum Allah, cher. Ma question concerne Issa ibn Maryam. Je voulais savoir s'il a parlé qu'une seule fois pour innocenter Maryam, alayhi salam, et après il n'a plus parlé quand il était bébé, ou bien il parlait tout le temps bébé. Je m'excuse si ce n'est pas très clair. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Quels prophètes furent envoyés au Bani Israël? Les Arabes ne devaient-ils pas suivre l'une des législations des prophètes et messagers envoyés par Ibrahim? Ah, donc j'arrête de lire, Inch'Allah, puisque le cher n'entend pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, est-ce que vous avez du son cette fois-ci? Alhamdulillah. Donc je répète, première question, question d'une sœur. Assalamu alaikum. Hafizakum Allah, cher. Ma question concerne Issa ibn Maryam. Je voulais savoir s'il a parlé qu'une seule fois pour innocenter Maryam, alayhi salam, et après il n'a plus parlé quand il était bébé, ou bien il parlait tout le temps bébé. Je m'excuse si ce n'est pas très clair. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Quels prophètes furent envoyés au Bani Israël? Les Arabes ne devaient-ils pas suivre l'une des législations des prophètes et messagers envoyés après Ibrahim alayhi salam? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Cheikh, je vous remercie pour le temps que vous nous consacrez à combler notre ignorance par la connaissance. Puisse Allah Azza wa Jal vous offrir al-Firdaus ainsi que sa miséricorde sur terre et dans l'au-delà. Voici mes questions. Est-ce que les parents de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts dans une période de vide entre la période d'un messager et le vide? Quelles sont les règles concernant la période de viduité pour une femme divorcée? C'est uniquement les questions en rapport avec le cours pour l'instant. Barakallahu fikoum à vous, cher, ainsi qu'à toute votre équipe. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala déverser sur vous tous, ainsi que notre umma, son immense miséricorde. Tfadal, cher.
Je relis avec vous les questions, inshallah ta'ala. Une seconde. Donc, pour la première question. Ma question concerne Isa alayhi salam. Je veux savoir s'il a parlé qu'une seule fois pour innocenter Maryam alayhi salam, et après il n'a plus parlé quand il était bébé, ou bien il parlait tout le temps bébé. Naam. Ce que je sais, naam, c'est qu'il a parlé la fois où il a innocenté. La fois où il a innocenté. Est-ce qu'il a parlé après? Allah ta'ala alam. Est-ce qu'il a parlé après? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ça demande, inshallah ta'ala, ça demande yani, des recherches. Pour la deuxième question, quels prophètes furent envoyés au Ben Israël? Les Arabes ne devaient-ils pas suivre l'une des législations des prophètes et messagers envoyés après Ibrahim alayhi salam? Non. Ben Israël, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a envoyé beaucoup de messagers. Entre autres, Moussa alayhi salam, le dernier. Moussa alayhi salam, Et ensuite, il a envoyé Isa, le dernier, yani car comme vous savez que yani, le christianisme lui-même, yani, il est pris de quoi? Il est pris de la Torah. Il est pris du judaïsme lui-même. Vous savez que yani, tout ce qu'il y a dans le judaïsme, yani, c'est ça la base. Ensuite, les chrétiens yani, ont pris. En suivant ce qu'on appelle le christianisme, en suivant Isa alayhi salam, mais bien sûr, ils ont dévié, ils ont dit que c'était Dieu, et que c'était le fils de Dieu, et que c'est ceci, ceci. Yani, ils ont vraiment dévié du chemin. Les Arabes, non, les Arabes, ne devaient-ils pas suivre l'une des législations des prophètes et messagers envoyés après Ibrahim alayhi salam? J'ai pas bien compris ça. Les Arabes ne devaient-ils pas suivre l'une des législations des prophètes et messagers envoyés après Ibrahim alayhi salam? Chaque personne, yani chaque arabe qui vivait au temps où un messager est venu, il devait suivre ce messager. Non. Chaque arabe qui vivait, car les arabes ils ont commencé quand? Yani après, avec la venue de Ismaël alayhi salam. Ismaël, le fils de Ibrahim. Car Ibrahim, comme vous savez, n'était pas un arabe. Ensuite, Ismaël a appris l'arabe et à cause des. Il avait vécu chez. Et côtoyer des gens, yani vivait dans le voisinage des Arabes. Donc, c'est le premier Arabe. Et ensuite, ils ont quoi? L'Arabe s'est propagé, la nation arabe. El Mohem, chaque Arabe, au temps de Ismaël alayhi salam, devait suivre le messager qui était en son époque. Qui était en son époque. Naam. Donc, c'est ça la réponse, inshallah ta'ala. Chaque, je dis en général, chaque personne doit suivre le messager qui est en son temps. En son temps. Quand j'existe moi, je vis, je vois qui est le messager qui a été envoyé en mon temps. Celui-là, je dois le suivre. Yani, que je sois arabe et qu'il soit pas lui arabe. Ou alors le contraire, qu'il soit lui arabe ou moi pas arabe. L'essentiel, c'est que je suive le messager qui vient lorsque je suis vivant. Est-ce que les parents de notre prophète alayhi sont morts dans une période de vide, entre la période d'un messager de vide. Beaucoup ont dit comme ça. On dit que les parents du prophète alayhi salam ont vécu dans une période de vide. C'est pour cela que beaucoup les excusent. Ils disent cela, yani, ils sont excusés. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah est d'un autre avis. Et c'est l'avis le plus fort, inshallah ta'ala, que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nam, yani, devaient suivre quoi? Devaient suivre la législation nam, qui était avant eux, qui était avant eux et qui découlait de la législation de Ibrahim, de notre prophète Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela que les hadiths sont clairs et authentiques que le père et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en enfer ou bien iront en enfer. Et le hadith se trouve dans Muslim, bien sûr, dans Muslim et dans le Bukhari, que quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est mon père? Il lui a dit en enfer. Et lorsqu'il s'est détourné pour partir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su aussi que bien sûr il a été touché, il lui a dit une seconde, il s'est retourné, il lui a dit, et mon père aussi. Ça veut dire mon père aussi est en enfer, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa mère, le hadith est dans le Bukhari ou le Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé visiter la tombe de sa mère et qu'il a demandé à Allah ta'ala qu'il lui pardonne, il n'a pas accepté. Et qu'il a pleuré et a fait pleurer tout le monde qui était présent ce jour-là. Et que Allah Ta'ala lui a quoi? Lui a exaucé le fait qu'il puisse aller la visiter. De là, les savants ont pris le fait, yani, la recommandation, que c'est bien d'aller visiter la tombe du père ou de la mère s'ils sont morts dans la mécréance. Comme a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à condition de ne pas leur demander. Yani, qu'Allah leur pardonne ou la miséricorde, c'est interdit pour quelqu'un qui est mort dans le coffre. Dans le coffre. Non. Ensuite, quelles sont les règles concernant la période de viduité pour une femme divorcée, son mari est toujours en vie et la femme n'étant pas enceinte, en période de pureté rituelle, le fait du divorce est prononcé par téléphone et par la parole, je te divorce par exemple 3 fois, c'est une bid'a, une innovation. Hein? Non, quand quelqu'un dit à sa femme, tu es divorcé 3 fois, ça ne compte qu'une fois. Quand il lui dit comme ça, je te divorce 3 fois, c'est seulement une fois. Ou bien lui dit, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Ça ne compte toujours qu'une fois. Quant à la période d'huité, ça veut dire qu'elle doit attendre trois menstrues, les menstrues. Si elle est enceinte, elle doit attendre que elle accouche pour que la période d'huité se termine. Et pendant la période d'huité, la femme doit rester avec son mari, sauf si c'est le troisième divorce. Sauf si c'est le troisième divorce, c'est pas obligé car elle ne va plus revenir à son mari et elle ne va plus être halal pour lui jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre. Non. Est-ce une bid'a de dire trois fois? Non, c'est une bid'a. On ne doit divorcer qu'une seule fois, pas trois fois d'un coup. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل مسلم. مسلم est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends?
Non, cher, je suis là, j'étais en train de vous envoyer les questions en PV. Avez-vous quelque chose à dire, cher, ou je lis les questions, Inch'Allah? Tfadal, cher.
Oui. Est-ce que la fois passée, quand vous avez parlé de qu'à la fin de la salat, on dit Qul Huwallahu Ta'ala, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq et Qul A'udhu bi Rabbin Nas, est-ce que vous avez dit trois fois ou une fois? Est-ce que vous avez dit trois fois on lit ou bien une fois? Je dis, je me rappelle pas. Je me rappelle pas ce que j'ai dit la fois passée. Je me souviens d'avoir dit que c'est de la sunna, que quand on termine la salat, après avoir dit Astaghfirullah trois fois et fait le tesbih, après avoir lu Ayatul Kursi, j'ai dit que c'était la sunna de lire Qul Huwallahu Ahad, ensuite Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Mais je me souviens pas si j'ai dit trois fois ou bien une fois. Mais maintenant je dis, après chaque salat, c'est sunna de lire, et après Ayatul Kursi, de lire une fois Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Sauf pour salat subh et salat al-maghrib. Sauf pour salat subh et salat al-maghrib, on lit trois fois ces choses-là, trois fois ces sourates. Qul Huwallahu, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Sinon, on lit une seule fois pour les autres salats. Tfadhal.
Donc, question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Voici ma question. Je suis marié maintenant depuis 7 ans, alhamdoulilah. Par contre, depuis le début de mon union, il y a toujours eu des problèmes avec ma belle-mère. En effet, celle-ci est malade un peu mentalement et elle joue beaucoup de ça pour faire culpabiliser ses enfants, comme quoi ils l'ont abandonnée. Ma belle-mère vit encore avec mon beau-père, qui depuis est devenu très malade avec tous ses problèmes. De ce fait, il a une seconde épouse. Mon beau-père lui a fait plusieurs fois ruqya et a fait toutes les causes nécessaires pour la soigner. Après un incident assez grave qui a eu lieu avec mon beau-père et ma belle-mère, celui-ci ne veut plus qu'elle vive chez lui. Et elle aussi. Et elle fait tout pour aller vivre avec ses enfants qui sont pratiquement tous mariés. Depuis, elle cohabite avec nous, mais elle fait tout pour que mon mari et moi sommes en conflit. Elle m'a même giflé une fois. Je ne sais plus quoi faire, ni moi ni mon mari. Cette situation est très pesante pour notre vie de couple. Mon mari ne supporte plus cette situation. Il connaît l'importance de la mère en islam, donc il est perdu. Que nous conseillez-vous? Suis-je en tort si je refuse de cohabiter avec elle? Barakallahu fekoum. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Cher, je suis la sœur qui vous a posé la question quant à mon mari, qui avait vraiment été énervé quand je lui avais annoncé que j'attendais une fille, Inch'Allah. Je reviens à vous, cher, pour vous demander si j'ai le droit dans mes devoirs de demander à Allah que ce soit un garçon en bonne.
Afoune pour te couper, car les questions sont assez longues. Quand c'est assez long, on va lire une question, tu comprends? Une par une. Si toi tu vas lire, ensuite moi je vais lire, et je vais prendre donc beaucoup de temps, et toi tu prends beaucoup de temps. Enfin, on va lire une par une, Inch'Allah Ta'ala. Donc pour la première question qui dit quoi? Non. La première question qui parle de la belle-mère, et que maintenant elle vit avec son mari. Et que elle refuse de vivre avec sa belle-mère, etc. Je dis, Naam, en islam, rien ne t'oblige de vivre avec ta belle-mère. Sauf si quoi? Si le mari fait comme condition, lorsqu'il veut se marier, il fait comme condition dans l'acte de mariage qu'on va vivre chez mes parents. Tu as accepté, là, tu dois continuer à accepter, c'est trop tard. Mais s'il n'y avait pas ça comme condition, ce n'est pas obligé que je vive avec ma belle-mère. Mais maintenant, reste que quoi? Reste que il n'y a pas de solution dans ce cas-là. Dans ce cas-là, car lui, il ne peut pas yani, jeter sa mère. Et d'un autre côté, il ne peut pas jeter sa femme. Il peut pas jeter sa mère. Il ne peut pas jeter sa femme. Je dis, si Inch'Allah Azzawajal, yani, tu patientes, hein, tu auras Inch'Allah Ta'ala beaucoup, beaucoup, beaucoup de récompenses. Car tu es dans un vrai djihad. Car tu n'es pas allé combattre yani, les kuffars, mais tu es en train de combattre Iblis, hein, et les shayatins de cette femme. Donc tu es vraiment dans un grand djihad. Surtout que ton mari n'a pas de solution. S'il avait une autre solution, yani, ce serait bien que toi tu sois quelque part et elle quelque part, et lui un peu ici, un peu là-bas. Mais je pense que ça c'est difficile. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je résume pour dire, certes, ce n'est pas une obligation d'habiter avec elle. Si tu n'habites pas avec elle, tu n'as pas de péché. Mais, yani, si tu veux vraiment les récompenses et qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut patienter bi'ilna ta'ala. Et si vous pouvez voir comment faire une solution, voyez donc, voyez comment faire une solution pour sortir de ces mashakil, de ces mashakil. Allah musta'an. Faites des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse une solution, car je sais, yani, je connais la relation entre la belle-mère et l'épouse. Et que c'est une chose qui, yani, de tous les temps, a été difficile. Et il n'y a pas, je dis, il n'y a pas, pour quelqu'un qui veut sentir le bonheur du mariage, que de vivre seul avec sa femme et ses enfants. Pour celui qui veut sentir le bonheur du mariage, il n'y a pas comme yani, qu'il vive seul avec ses parents. Et moi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala me pardonner, puisse Allah subhanahu wa ta'ala me pardonner. Mais jamais, si quelqu'un me demande une de mes filles, je ne la lui donne s'il n'habite pas seul. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala me pardonner. Si jamais quelqu'un me demande la main de mes filles, d'une de mes filles, s'il n'habite pas seul, même dans une cabane en bois, que lui il a construite. D'accord. Mais s'il habite avec ses parents, je ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y aura des méchakil et que peut-être ça va terminer par le divorce. Non. Donc, si jamais il y a ici des frères qui veulent demander l'une de mes filles, alors qu'ils commencent à construire des cabanes. Ils commencent à construire des cabanes. Inch'Allah, ils vont à la forêt, ils commencent à défricher la forêt. Ayat Fadal.
Ah, question suivante, cher. Donc, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Cher, je suis la sœur qui vous avait posé la question quant à mon mari, qui avait vraiment été énervé quand je lui avais annoncé que j'attendais une fille, inshallah. Je reviens à vous, cher, pour vous demander si j'ai le droit dans mes doigts de demander à Allah que ce soit un garçon en bonne santé et non pas une fille. Je précise que je n'ai pas de préférence, car j'ai déjà un garçon et une fille, walhamdulillah. Mais je veux demander ça à Allah pour mon mari. Ai-je le droit de faire cette doua, car l'échographie n'est pas sûre à 100%. De plus, cher, des fois je pense à quelqu'un qui n'est pas avec moi. Et je fais de doua pour lui, mais en interpellant lui. Même à vous, cher, des fois, j'entends vos douros et je dis par exemple, Allah yahfadhek ya cher. J'aimerais savoir si ce n'est pas haram. Je sais que la personne ne peut m'entendre. Mais je le fais par habitude. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Et d'autres exemples. Mes parents sont loin de moi. Et des fois, en pensant à eux, je dis Allah yahfadhek ya baba, ou bien Allah yastrek ya mama, ya yimma. Au lieu de dire Ya Allah hafidhum, voilà, Inch'Allah, vous avez compris. Barakallahu fikoum, et qu'Allah vous honore et vous place parmi les prophètes et les compagnons au paradis. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatoullah. Pour le garçon, puisque ce n'est pas sûr que ça n'a pas été confirmé, l'échographie, c'est bien de faire des doigts pour que ça soit un garçon, non, mais à condition de ne pas dire, mais je veux pas que ça soit une fille. Elle dit pas dans ses doigts. Mais elle dit dans ses doigts, et Allah, faites de sorte que ce soit un garçon, yani pour faire plaisir à mon mari, ou là comme ça, et Allah fait de sorte que ce bébé soit un garçon, et comme ça. Mais qu'elle dise pas la phrase, et non pas une fille, même sinon ça veut dire que j'accepte pas la fille. Mais elle peut dire à Allah, faites de sorte que ça soit un garçon, bi'idhnillahi ta'ala. Surtout pour que, yani, ça fasse une union entre elle donc et son mari. Ensuite, pour le fait d'interpeller quelqu'un, ici, en fait, on n'a pas interpellé. Car si on interpelle, naam, ça veut dire on interpelle quelqu'un qui n'est pas devant nous. Mais on l'a cité. On l'a cité. Je parle de mon père, ensuite je dis, Allah yahafdak ya abi. Naam. Encore si je demande à Allah Ta'ala de le préserver ou là, ça, ce n'est qu'une doua. Mais des fois, je le cite, c'est comme s'il était, par exemple, un mort, c'est comme s'il était vivant. Je dis, par exemple, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rahimallahu akhi Yusuf, akhi Moussa. Puis Allah Ta'ala, yarham akhi Moussa. Naam, s'il était vivant, yani, il n'aurait pas eu d'autre solution que de me suivre. Naam, aussi, yahwinan yittabi'ani. Ou, Rahimallahu akhi Moussa. Naam, on aurait souhaité qu'il patiente encore avec le Khader. Et comme ça. Naam, donc si je parle de quelqu'un, c'est pas je l'interpelle. Naam. Et je parle avec lui un dialogue. Non, c'est pas je dialogue, mais je le cite. Je le cite et je dis, Rahimallah, il était masha'Allah, il était bienfaisant, il était ceci, il était cela. Naam. Tout ça, yani, c'est permis, inshallah, dans la charia. Naam. Ensuite, elle a dit, dit autre chose. Une seconde. Naam. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Tfadlal.
Alors, question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Abdillah, qu'Allah accroît votre science et la nôtre, et vous rétribue en bien pour tout ce que vous apprenez, pour tout ce que vous nous apprenez. Ma question est la suivante. Mes menstrues, c'est dur. Non, ma fille a eu ses menstrues, c'est ma fille a eu ses menstrues qui ont duré 7 jours. Et 8 jours seulement après s'être purifiée, elle a eu de nouveau ses menstrues. Dans le doute, car elle ne sait pas si ce sont des menstrues ou pas, elle a fait salat normalement. Mais on ne sait pas si elle doit prier ou pas. Et si oui, comment doit-elle se purifier avant chaque prière? Les petites ablutions suffisent-elles? Ou elle ne doit pas prier tant qu'elle a ses règles? Qu'Allah vous préserve sur la voie des véridiques et des sincères. Toi, Dachir.
Naam, amin pour les doigts, je dis, si c'est une. Des fois, elle est débutante. Il y a une différence entre la débutante et celle qui a déjà l'expérience. Naam, celle qui, ça fait longtemps, yani, qu'elle a ces choses-là. Al-Muhim, quand elle est de celles qui, ça fait longtemps qu'elles ont ces choses-là, la femme sait que beaucoup d'elles, quand les règles se terminent, elles ont un fil blanc. Celles-là, les femmes qui ont un fil blanc, elles doivent attendre le fil blanc et ne pas se hâter, se précipiter pour prendre la douche. Pourquoi? Parce qu'elles savent que d'habitude, elles ont le fil blanc. Donc, elles doivent attendre à condition que ça ne dépasse pas 15 jours. Si ça dépasse 15 jours, le 16e jour, la femme doit se laver et prier. Et ça devient quoi? Ça devient métrorragie. Et pour l'autre qui n'a pas le fil blanc, elle voit que c'est sec, il n'y a plus de sang. Car il y a des femmes qui n'ont pas le fil blanc. Si aussi donc dans ses habitudes qu'il n'y a pas le fil blanc et que c'est sec, dès qu'elle voit que c'est sec, il n'y a plus de sang qui coule, donc celle-là, elle prend sa douche. Mais il arrive quoi? Il arrive que des fois, non, des fois, après qu'il n'y ait plus de règles, non, donc c'est sec, c'est pur, 5, 6, une semaine. Ensuite, le sang revient. Les savants ont dit, on va voir, c'est tout. On va voir, est-ce que ce sang ressemble au sang des règles? Le sang des règles qui est noir, qui est gras, qui a une odeur, et qui ne se, attendez, je cherche le verbe, il ne se coagule pas. Contrairement à l'autre sang. Nous, si on se blesse, et le sang qui va couler, on le laisse un peu, il va se coaguler. Le sang des règles ne se coagule pas. Il a quatre choses. Noir, mauvaise odeur, gras, et ne se coagule pas. Et Allah Ta'ala a dit, Is'alunaka 'an al-mahid, qul huwa adha. Fa'tazilu an-nisa' fi al-mahid. Allah Ta'ala a dit que tant qu'il y a ce sang, ça veut dire c'est les règles. Tant qu'il n'y a pas ce sang, c'est pas les règles. C'est pour cela que les savants ont dit que la femme peut avoir deux cycles dans le même mois, voire trois. Certains ont dit même trois. Non, la femme peut avoir deux cycles dans le même mois. Après qu'elle s'est purifiée, après la douche, mashallah, une semaine après, les règles sont revenues. C'est possible, c'est rare, mais c'est possible. Donc je dis à cette soeur, ou là, cette fille, ou là, elle voit, est-ce que c'est le même sang, yani, ou bien c'est un autre sang, c'est un autre sang qui n'est pas noir, mais rouge, rouge vif. Rouge vif, qui n'a pas d'odeur, c'est comme le sang qui coule de nos blessures. Celui-là, donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie bi'idnillah, elle se lave une fois, et elle prie à condition que pour chaque salat, elle fait des ablutions. Elle se lave une seule fois, et ensuite pour chaque salat, elle fait des ablutions, sauf si quoi? Sauf si elle groupe. Si elle groupe entre les salats, elle fait une seule fois les ablutions, et elle groupe entre les deux salates. Naam. Si c'est difficile, il y a beaucoup de sang qui coule. Naam. Tfadlal.
Question suivante, question d'un frère. Salam alaykoum, cher. Hafizakoum Allah. Vous avez dit que les Quraysh et Abu Jahl devaient suivre le dernier messager avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez dit qu'ils devaient suivre Ibrahim alayhi salam. Or, c'est Isa alayhi salam qui était le dernier messager. Pouvez-vous nous éclairer, cher Barakallahu fikoum. Fadha, cher.
Non, peut-être qu'il y a eu un petit amalgame. En fait, c'est que Quraysh, non, c'est-à-dire que eux et leurs ancêtres et leurs aïeux, dans leur religion, ce qu'il leur restait comme religion, car ils connaissaient un peu le tawhid de la seigneurie, etc. Tout ça, ils l'avaient de Ibrahim alayhi salam. Ils l'avaient de Ibrahim et son fils Ismaïl. Et des Arabes qui sont venus. Donc, il leur est resté quelque chose comme ça qu'ils faisaient, comme le bon voisinage, etc. Tout ça, ils l'ont pris de quoi? Du dernier prophète arabe, yani de Ibrahim et Ismaël, son fils, alayhi salam. Sinon, ils doivent suivre le dernier messager qui a été envoyé, à condition quoi? À condition que ce messager soit envoyé à tout le monde. Comme c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, beaucoup de messagers ont été envoyés seulement à leur qui? À leur nation. À leur nation. Comme Yahné, Isa et Moussa qui ont été envoyés aux enfants de Benou Israël. Comme vous savez que les chrétiens et les juifs, il y a entre eux un lien de parenté. Ce sont des cousins. Ce sont des cousins. Bi'idhnillahi ta'ala, car leurs prophètes sont des frères. Le prophète sont des frères Ismaïl et Ishaq. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikh Hana. Hayakoum Allah. Il m'est arrivé depuis plusieurs années de faire des crises de plus en plus poussées au fil des années. Entre parenthèses, mes muscles se contractent et je perds le contrôle de mon corps. Je tombe par terre. Et ces derniers temps, ça a été le pire. En effet, j'ai couru dans la maison et j'ai foncé dans la vitre. On aurait dit une folle. Et je me mordais les doigts et je mordais les gens, je tapais les gens, je crachais, disais des paroles qui ne veulent rien dire, et encore les muscles crispés, les yeux qui louchent, tout ça pendant plusieurs heures. Je sens quand la crise arrive. J'ai fait ruqya plusieurs fois, mais je ne sais pas si ce sont des waswas ou si c'est autre chose. Car quand je faisais ruqya, je sentais tout ce que m'on faisait, et le raqi dit que ça pouvait être des ruses de shaitan qui profite de moi dans certains moments de faiblesse. Je crois qu'il a dit des waswas. Une fois, quand j'ai fait ruqya, j'ai eu les jambes paralysées, mais après, c'est passé. Et d'autres fois, j'ai aussi réagi en tombant, en refaisant une crise, mais je ne sais pas si c'est parce que j'écoute les waswas. Ça m'est arrivé en écoutant le Coran, mais souvent à des moments où on ne s'y attend pas. Tfadha, cher.
Naam, Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. parce que il y a des cas vraiment, il y a des cas qui sont vraiment, y a des complexes, qui sont vraiment complexes, et des fois que même quand on fait ruqya à la personne, que des fois on reste dans le doute. Est-ce que c'est sihr? Est-ce que c'est djinn? Est-ce que c'est ouswas? Est-ce que c'est comment on dit ça? La crise de épilepsie. Épilepsie, quelqu'un qui tombe et commence à se mordre les lèvres, etc. Vous connaissez l'épilepsie. Ce qui prouve ici que ce n'est pas épileptique, c'est que la personne, yani, parle et dit des mots, etc. Alors que celui qui est épileptique ne dit aucun mot. Il tombe et yani, commence un peu à trembler, il fait la crise et il a les lèvres qui deviennent. De couleur violet, un peu de salive qui sort de sa bouche, mais il parle pas, il parle pas. Mais celui qui, par contre, quand il tombe, il commence à s'agiter et à parler, celui-là, dans la plupart des temps, c'est un djinn. Dans la plupart des temps, c'est un djinn. Comme a dit Ta'ala, comme celui qui est ébranlé, si je puis dire, frappé par le shaitan. Donc, je dis à la personne qu'elle devrait, inshallah ta'ala, revenir beaucoup vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander de lui faire une solution. Elle devrait, inshallah ta'ala, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander de lui faire une solution. Et comme a dit quelqu'un a dit, c'est quelqu'un qui fait la ruqya, ou plutôt c'est la personne qui a raconté, la personne qui était malade. Elle a dit, je tombais beaucoup, j'avais beaucoup de crises. Ceci, cela, hein. Elle a dit, j'ai été faire la ruqya, mais le raqi n'a pas commencé par la ruqya. Non. Mais il m'a d'abord conseillé d'apprendre la aqida, d'apprendre le dîn, et plus spécialement la aqida. La aqida. Et ensuite, il a dit, dans 3 mots là, reviens, on fait ruqya. Et la personne a dit, depuis que j'ai commencé à apprendre la aqida, jamais je n'ai eu une crise. Jamais, plus jamais je n'ai eu de crise. Ni je n'ai eu besoin de revenir faire la ruqya. Non. Car, on apprend bien sa aqida. On commence à avoir quoi? On commence à chasser. Chasser tout ce qu'il y a dans le cœur comme obscurité, comme ténèbres, comme nid. Le nid du shaitan. C'est là-bas que le shaitan nichait. C'est là-bas qu'il dormait, lui et ses enfants, sa famille. Il faisait des problèmes, des ouswas. Maintenant, lui, il n'accepte pas la lumière. Quand un cœur est illuminé maintenant par la aqida, lui, il n'accepte pas ça. C'est un peu l'emprisonner. Non. C'est pour ça qu'ils disent, par exemple, que le croyant, quand il est dans la mosquée, c'est un peu comme un poisson qui est par exemple, dans la mer, ou dans l'eau. Il est mashallah. Et l'hypocrite, quand il est dans la mosquée, c'est le contraire. C'est un poisson, yani, qu'on a fait sortir de l'eau. Qu'on a fait sortir de l'eau. Donc le shaitan n'aime pas les cœurs où il y a la lumière, illuminée par nor, nor. Et la lumière ne peut venir que de la aqida. Si quelqu'un comprend bien la aqida, connaît bien la aqida, suit bien, yani, le dîn, il va être illuminé, comme a dit Allah Ta'ala. Nourun ala nour. Yahdi Allahu li nourihi man yasha. Donc, moi je conseille, yani, que la personne apprenne bien la aqida et revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, fasse des doigts, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, de l'aider, et inshallah ta'ala, le shaitan va lui-même, de lui-même, il va quitter. Il va dire, moi je vis pas dans un corps pareil, un corps et un cœur pareil. Il veut quitter et il part, yani, il quitte et il part vivre chez une personne qui est noyée dans l'obscurité, ou l'iyadu billah. Tfadlal.
Alors, question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Barakallahu fikoum pour vos cours très bénéfiques. Ma question se porte sur le sujet de la vente. J'aimerais savoir ce que veut dire la vente aléatoire. Bi'a el gharar. Est-ce que la vente de produits islamiques sur un site est considérée comme el bi'a el gharar? Car certes, on voit le produit en photo, mais pas en réalité. Jazakumullahu khairan. Tfadal, cher.
Bé al-gharar, c'est toute vente où la marchandise, yani, ne peut être vu et su, yani on ne connaît pas ses descriptions, sa description, d'une manière qui soit concordante avec la réalité. Non. Ça rentre dans Bay al-Gharar, par exemple, je vous donne un exemple. Bay al-Gharar, et ça se fait, ça se fait, subhanallah, Allah, ça se fait. On te vend comme ça dans certains magasins ou je ne sais pas où, on te vend des cartons comme ça, et tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On te dit, pour 20 euros, 20 euros, tu prends le carton, une seconde. C'est un italien. On te dit par exemple, allez, 10 euros, tu prends le carton. Tu prends un carton, tu choisis comme ça, sans choisir. Tu prends l'un des deux, l'un des cartons par exemple, ou la même, tu choisis, mais tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, tu ouvres. Avec 10 euros, il se peut que tu trouves par exemple une télé qui coûte par exemple 100 euros ou 200 euros. Tu vois, tu as donné seulement 10, tu as gagné 200. Et il est possible que tu trouves quelques bonbons ou là, des petits jouets dont le prix ne dépasse pas, par exemple, 2 euros là. Donc tu as perdu. Donc ça c'est bien rare. Ou alors je te dis par exemple, tu vois, je te vends par exemple les oiseaux, je te vends les oiseaux qui vont, comment on dit, se reposer, non, qui vont se poser. Je te vends tous les oiseaux qui vont se poser sur cet arbre-là, qui est mon arbre dans le jardin. Tu vois dans le jardin l'oranger là-bas? Voilà, tous les oiseaux qui vont se percher sur cet arbre, je te les vends. Ou alors je te vends yani, les poissons qu'il y a, par exemple, dans cette piscine-là. Voilà, c'est ma piscine, il y a des poissons, mais personne ne sait c'est combien son nombre. Je te vois tous les poissons qu'il y a là, et comme ça. Donc ça s'appelle Bay al-Gharar. Je te vends des choses qui, yani, tu peux pas. Et savoir à 100% c'est quoi. Maintenant je reviens à la personne. La personne dit, je vois une photo sur l'internet, etc. C'est pas bien rare. La personne t'a bien montré la chose. T'as bien montré la chose sur la photo comment qu'elle est. Bien sûr, à condition que lorsque je reçois la marchandise que j'ai vue sur internet, à condition qu'elle soit quoi? Concordante à la photo. C'est pas il m'a dupé ou là il m'a rusé. Non? Donc je fais qu'en condition, j'achète, d'accord, j'achète cette chose que je vous montrer sur photo sur internet. Je mets sur condition, à condition que, yani, quand elle arrive chez moi, elle arrive comme ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est pas, yani, vous allez vous montrer une chose et m'envoyer comme colis autre chose. Non. Tfadlan, inshallah ta'ala.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum, cher. J'aimerais votre avis, bidnillah. Voici, voilà, il y a quelques mois, j'ai passé un examen. Et quand le temps de l'épreuve était terminé par ignorance, je continuais à recopier mon texte au propre sur ma copie. Donc j'ai bénéficié du temps en plus pour écrire des réponses sur ma copie, alors que c'est interdit par ignorance. Et aussi, je crois qu'il y a comme une erreur sur mon bulletin de notes. Sur les modules, il est noté des notes avec des points en plus alors que je n'ai jamais eu ces notes. Je trouve ça bizarre. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu mon diplôme. Mais j'ai des doutes à cause des deux choses que je vous ai citées. En plus, j'ai passé cet examen pour pouvoir avoir un bon bagage pour faire la hijra ou autre. Je remercie Allah, il m'a facilité, mais j'ai des doutes maintenant d'être fier de mon diplôme et de le dire aux gens que je l'ai obtenu. Alors qu'il est haram de s'approprier une chose qui ne nous appartient pas. Barakallahu fikoum, qu'en pensez-vous, cher? Aussi, une dernière chose. Quand on prépare son examen, est-il permis de se servir du travail des autres? Je m'explique. Une personne avait lu une copie d'une étudiante. Elle avait eu une très bonne note, et lorsque j'ai révisé avec cette personne, elle m'a cité ce qu'il y avait dans la copie de cette étudiante. Et donc, je m'en suis servi pour préparer ma dissertation pour mon examen final. Est-ce considéré comme de la triche? Et est-ce que cela affecte mon diplôme? Barakallahu fikoum, cher. Excusez-moi pour la longueur de ma question, mais je veux avoir la conscience tranquille. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Non, en fait, tout ça, bi'idhnillahi ta'ala, ça, yani, d'un côté, ça montre que la personne, bi'idhnillahi ta'ala, a un cœur vivant. vivant dans le sens où elle cherche. L'âme, elle ne veut pas vivre dans le haram. Elle ne veut pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit yani, en colère contre elle. Ça, c'est d'un côté. Donc, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que ça peut rentrer un peu dans les ouest-ouest. Ça peut rentrer un peu dans les ouest-ouest. Une chose que j'ai faite, sans le faire exprès. Là, je savais pas. La personne dit, je savais pas que le temps était terminé. Donc, pourquoi je me fais des soucis pour une chose que j'ai pas faite exprès? Et Allah t'a dit, laissa alaykoum junahun fi ma akhta'tum bih. Non. Donc, moi, j'ai pas fait exprès. Mais ce que vous faites exprès, c'est là que Allah Ta'ala yani châtie. Mais quand je me trompe, je fais pas exprès. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun problème. Idem pour la dissertation, etc. Ce qu'elle a raconté de la sœur. Je dis, hier, c'était vendredi, aujourd'hui, non, hier, j'étais en train de suivre les fatawas de. Vous savez, chaque vendredi, il y a sur Mejd, il y a. Les questions-réponses du mufti d'Arabie Saoudite. Chaque vendredi, il y a 1 heure. On lui pose des questions, il répond. Non. Hier, j'étais présent, c'est-à-dire, j'étais chez des gens, et ils avaient mis la chaîne El Mohim. El Mohim. Entre autres, quelqu'un lui a dit, Yachir. Et c'est dommage, c'était un Algérien. Il lui a dit, Yachir, quand j'étais dans le terminal, je sais pas quoi, non. Ou là, dans un examen, ou là, j'ai trafiqué. Ah, il lui a dit, j'ai trafiqué un diplôme. Non, j'ai trafiqué un diplôme, et maintenant, je travaille, ça fait des années que je travaille, etc. Alors que mon diplôme est trafiqué, donc ça veut dire que, bien sûr, tout l'argent que je prends est haram, etc. Comment je fais? Ah, le cheikh lui a dit, c'est très simple. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour ce qui est passé, et... Yani, tu continues, là, c'est pas la peine de dire donc je vais arrêter le travail. Vous avez compris? J'ai trafiqué le diplôme autrefois, donc maintenant j'arrête le travail. Non, j'arrête pas, je fais tawba. Je fais tawba et je demande à Allah de me pardonner, mais je quitte pas le travail. Donc, hada pour quelqu'un qui a trafiqué et lui a dit, yani, demande pardon et continue ton chemin. Qu'en est-il pour celle-là qui yani, n'a rien fait de grave, ni n'a rien fait, yani, exprès. Non. Donc, Inch'Allah Ta'ala, même pour la dissertation que la personne lui a dit de la sœur ou là, non, tout ça, non, elle n'a pas cherché à lui voler, ni à copier quelque chose d'elle en cachette, ni. Non. Donc, tout que Allah subhanahu wa ta'ala, elle enlève les ouswas, Inch'Allah Ta'ala. Muslim, donne-moi, Inch'Allah Ta'ala, la dernière question, tfadlal.
Donc, dernière question, qui sont également d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me suis converti pendant mes études en école d'infirmière. J'ai appris l'importance du voile et le respect des règles islamiques, mixité, etc. J'ai donc décidé de porter le foulard et de m'éloigner au maximum des interdits. À ce moment, j'habitais encore chez mes parents. Mes ambitions dans le monde du travail avaient changé. Je ne ressentais plus le besoin de travailler. J'ai quand même continué mes études et passé mon diplôme que je n'ai pas obtenu. Je me suis ensuite marié, alhamdoulillah, et je me suis installé avec mon mari. Je ne voulais plus repasser mon diplôme, mais mon père m'a fait du chantage en me disant que si je ne repassais pas mon diplôme, il couperait les liens définitivement avec moi, surtout qu'il accepte mal mon mariage. J'ai donc, à contre-cœur, décidé de repasser mon diplôme, sachant que je devrais me dévoiler et être confronté à la mixité. J'ai fait un jour de stage qui était éprouvant pour moi, car je n'ai pas fait ma prière à l'heure, le Fajr, car en ce moment, l'heure de la prière est la même heure que ma prise de service. Je n'ai pas réussi à y aller le deuxième jour à cause de ces contraintes. Je voudrais savoir si j'ai pris la bonne décision en choisissant de plaire à Allah, mais cela rendra triste mes parents, et quels conseils pouvez-vous me donner? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher.
C'est la meilleure chose et c'est ce qu'il fallait faire bi-idhnillahi ta'ala, à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Ici, mon père veut me pousser à quoi? À faire des choses qui vont pousser au haram, à me dévoiler, à la mixité, je ne sais pas quoi. Surtout me dévoiler, ne pas faire des salat à l'heure. Donc ici, n'am. l'obéissance à mon père, quand j'obéis à mon père dans ces choses, ça, la désobéissance à Allah Ta'ala. C'est ça le haram. Donc, ne pas désobéir à mon père dans cette chose, c'est l'obéissance à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala va quoi? Va me donner victoire sur mes parents et sur tout le monde. Et surtout ceux qui me veulent me faire des problèmes. Si je m'accroche bien à son câble, Azzawajal. L'âme, si je m'accroche bien à lui et à son câble, Azzawajal. Et c'est lui qui nous a dit par le biais de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit que celui qui cherche à plaire aux gens, au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala se détournera de lui et fera de sorte que les gens vont aussi se détourner de lui. Et celui qui veut plaire à Allah ta'ala au détriment des gens, pas au détriment d'Allah, au détriment des gens, Allah subhanahu wa ta'ala va se tourner vers lui et faire tourner le cœur des gens vers lui. Donc toi, si tu veux plaire aux gens, hein, pour qu'ils soient contents de toi, mais au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu perds deux choses. Le ravissement d'Allah, car Allah ta'ala va se détourner de toi, et en même temps, les gens qui j'ai œuvré pour eux, Allah ta'ala, yani c'est lui qui a leur cœur entre ses deux mains, entre ses deux doigts. Donc il va aussi les détourner de moi. Ils vont être contre moi alors que j'ai œuvrer pour eux. Donc je vais perdre deux choses, subhanallah. Il n'y a pas comme œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala et laisser les choses entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va me donner victoire tôt ou tard, bi'idhnillahi ta'ala, tôt ou tard. Donc ce qu'a fait la sœur, yani c'était le bon choix, bi'idhnillahi subhanahu wa azzawajal. Bi'idhnillahi azzawajal, on va se rencontrer mercredi, inshallah ta'ala. Mercredi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et avant cela, puisque. Hein, je voudrais avoir votre avis sur là, musulman. Comment tu fais musulman pour que tu me donnes l'avis des gens sur ceux qui. Car je vous ai dit que j'avais commencé le livre, mais que j'avais peur qu'il allait donner des ouest-ouest aux gens. Je voyais comme ça que je devais plutôt arrêter ce livre. Là, sinon, c'est un livre, mashallah. Non. Est-ce que tu penses que on va demander l'avis de certains? J'ai baissé toutes les mains. Voilà, c'est bien, c'est une bonne idée. Non. Donc, avant que vous leviez vos mains, je voudrais vous poser la question. Le livre que j'ai fait la fois passée, pour ceux qui étaient présents, non. S'ils voient que c'est un bon livre, qui ne donne pas de souhaits, qui au contraire, nous fait revivre avec des selfs, etc. Non. Je vais leur demander de lever la main à condition que je vais reposer une deuxième question pour dire quels sont ceux qui voient qu'ils donnent un ouswas. Ça sera la deuxième question. Et personne n'a le droit de lever deux fois la main. Choisis. Il lève la main une seule fois. La première fois ou bien la deuxième. Donc la première question. Quels sont ceux que ce livre, yani, et mashallah, ne donne pas les ouswas. Il ne donne pas les ouswas et que c'est bien de le continuer. Bon, on va voir donc les mains, on va compter avec les autres. Mousseline, tu as dit attendez. En même temps, je te donne le micro, Mousseline.
Non, cher, c'est pas à vous que je disais ça, c'est aux frères et sœurs. Ils levaient déjà la main alors que vous n'aviez même pas encore posé la question. Donc je leur dis, attendez que le cher termine, et après levez la main. Toi, dal cher.
Maintenant. Est-ce que tu peux compter les mains, musulmans, compte les mains, inshallah ta'ala, pour qu'on voit après, yani, ceux qui vont lever la main pour dire qu'ils donnent des ouest-ouest. Bon, maintenant, ceux qui ont levé, c'est pour dire que c'est un bon livre. Ceux qui ont levé, c'est pour dire que c'est un bon livre et qu'on continue. Et ensuite, les autres vont lever, on ne veut pas ce livre. Naam, Akh Mohamed. Inch'Allah, après le cours, Inch'Allah, quelques secondes. Hein. Muslim, compte-moi les mains, combien qu'il y en a, mais c'est interdit de lever deux fois les mains. C'est interdit de lever deux fois les mains, Inch'Allah, ta'ala. Je te donne le mécanique, combien qu'il y a de 52, Allah alam, 52. Taïb, baisse les mains, inshallah ta'ala, you muslim, baisse les mains. 52, 53. Baisse les mains. On va voir maintenant ceux qui lèvent la main pour dire que c'est un livre qui leur donne des ouswes. C'est un livre qui leur donne des ouswes. Et qu'ils ne voudraient pas faire ce livre. C'est drôle, donc, les autres, qu'est-ce qu'ils font avec? Donc, ils se sont abstenus. Les autres, il y a 100 personnes, 110 personnes qui se sont abstenues. 110 personnes qui se sont abstenues, qui n'ont pas donné leur avis. N'ont pas donné leur avis. Ils ont peur, hein? Non, peur de quoi? De donner leur avis? Ah, ça! Non! Ah, ça! Non! Donc, inshallah, on continue le livre, et il va y avoir beaucoup de choses très importantes dans le livre, inshallah, comme dans le prochain cours, inshallah, ta'ala, l'attachement à la sunna, la science et les choses pareilles. Et inshallah, ta'ala, quand on termine, on va commencer un livre dans la aqidah, bi'idnillahi ta'ala. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, à mercredi, inshallah. اخ اسمه الاخ محمد اشتاطه ان شاء الله تعالى اوفر مال بي في